Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM, campusille.com et en DAB+, sur la métropole lilloise et sur l'Artois, l'émission Quoi de Neuf, qui accueille pour sa troisième partie, eh bien, Virginie Malolepsy, qui est directrice des archives au Centre historique minier de Le Ward, et puis Jacques Lemire, qui nous fait le plaisir de revenir à Radio Campus. C'est toujours un grand plaisir de l'accueillir. Donc, on va parler maintenant de la mine et notamment un plein feu qui va être réalisé autour du cinéma et de la littérature. Donc, ça se passera les 3 et 4 avril au Centre historique minier de Le Ward. C'est bien cela ?
Oui, bonjour.
Donc, est-ce qu'on peut rappeler rapidement l'émission du Centre historique minier de Le Ward, Virginie Malolepsy ?
Le Centre historique minier de Le Ward est un établissement qui a été créé il y a presque 50 ans.
Ah oui ?
Voilà, il y a très longtemps, par l'entreprise elle-même, les Houillères du Bassin du Nord-Pas-de-Calais, qui souhaite, donc en 1973, conserver machines, outils, mémoires, archives, de façon à pouvoir transmettre aux générations à venir leur savoir-faire, leurs connaissances, leurs techniques et leur histoire. Mmh. Et puis en 1982 est constituée d'abord une association, association du Centre historique minier, qui a pour mission d'ouvrir au public, de façon plus large, un site de mine, celui de la Fosse des Lois, et de présenter un musée et d'autres choses. Puisqu'en fait, le Centre historique minier, ce sont trois structures complémentaires. Un musée de la mine, avec 15 000 objets dans ses collections. Un centre d'archives et de ressources documentaires que j'ai le bonheur de diriger, qui conserve des archives historiques publiques et des archives privées. Sur les mines du Nord-Pas-de-Calais depuis leur origine en 1720 jusqu'à la fermeture des mines en 1990. 2500 mètres linéaires d'archives papier, 7000 ouvrages de bibliothèque, 500 000 photographies, 500 films, donc quelque chose d'assez important qui permet véritablement de comprendre toute l'histoire des mines, les techniques, les hommes, les revendications, les mouvements sociaux. Et la vie quotidienne. Et une troisième structure, ce que les gens savent peut-être un peu moins, un centre de culture scientifique de l'énergie, parce que l'idée très tôt était de dire peut-être qu'à un moment donné, il sera important de replacer l'histoire du charbon, source d'énergie, au cœur des autres énergies, pour mieux comprendre, appréhender et surtout se poser les bonnes questions par rapport à, au développement durable, au réchauffement climatique, aux questions de société. Et vous voyez, une idée qui a germé dans les années 80 et qui aujourd'hui a tout à fait son sens. Mmh. Donc trois structures complémentaires.
Voilà donc un lieu ressource aussi qui peut peut-être intéresser d'ailleurs l'école de des mines de Douai qui n'est pas très loin.
Mais pas que l'école des mines, la plupart des étudiants, parce que la mine a ceci de spécifique, elle peut toucher toutes les disciplines universitaires. On pense souvent mine égale technique, égale histoire, mais géologie, chimie, physique, technologie, ethnologie, sociologie, anthropologie, véritablement toutes les disciplines universitaires ont un intérêt avec la mine, parce que la mine touche des hommes, des techniques, un territoire. Donc l'architecture, l'évolution des paysages, la transformation des paysages, donc véritablement des sujets extrêmement nombreux, ce qui fait que nous avons, au centre d'archives, entre 70 et 80 chercheurs par an, pour moitié universitaires de toute la France, mais également de l'étranger, qui s'intéressent à des questions minières pures ou transversales.
Mmh. Alors, j'ai pu assister à une présentation, alors c'était à culture commune, je ne sais pas si vous avez des liens, des passerelles.
Oui, bien
hein,
sûr.
D'une psychanalyse de territoire qui a été réalisée par un psychanalyste de territoire et qui est absolument géniale et qui reprenait donc, je crois que c'est Laurent Petit son nom, il me semble, hein, et qui reprenait déjà dans non seulement l'histoire, mais dans la géologie, tous les principes, toutes les ressources, tout ça qui avait amené le territoire, pour le coup, à être ce qu'il est maintenant, avec toutes ces transformations. C'est assez passionnant à vivre, sa psychanalyse.
Mais totalement. Et si on remonte plus loin, on n'avait pas eu le Carbonifère il y a 320 millions d'années, avec cette transformation d'une forêt équatoriale qui était située à l'équateur, puisque notre territoire était à l'équateur à l'époque, et la dérive des continents et la transformation de notre planète, cette première forêt équatoriale n'aurait pas donné naissance à une veine de charbon, à des centaines de veines de charbon qui sont dans notre sous-sol. Et si ensuite l'histoire mondiale et l'histoire française n'avaient pas fait qu'on avait eu une pénurie de bois, enfin, même pas une pénurie, on n'avait pas eu une prise de conscience que le bois pouvait venir à manquer et qu'il fallait aller chercher une autre ressource, et que le charbon était une ressource extrêmement importante, la houille, qui allait pouvoir donner une autre source d'énergie pour créer de la vapeur et donc de l'énergie supplémentaire et poser les jalons des révolutions industrielles. Ça n'aurait pas transformé notre territoire qui s'est complètement métamorphosé en 3 siècles.
Alors justement, cette houille qui a été exploitée, j'allais dire énormément en quantité, mais aussi dans un temps très court à l'échelle géologique, on ne pourra pas la reconstituer très vite. Est-ce qu'on aurait pu en faire autre chose de cette houille, j'allais dire plus noble que de brûler ou...
Alors, ça c'est toujours la question. C'est vrai qu'on le regarde aujourd'hui avec nos yeux et avec les conséquences que l'on vit. En même temps, c'est ce qui a aussi permis de créer nos sociétés à un moment donné. Et faire en sorte que nous en sommes là où nous en sommes économiquement, financièrement. Malheureusement, sur un plan environnemental très compliqué, la houille, ça se transforme, effectivement. On ne fait pas que la brûler. On la transforme en beaucoup de choses. On va la transformer notamment, on connaît presque tous la pétrochimie. Donc, la chimie du pétrole, on a fait exactement la même chose avec le charbon. On l'a transformé en matière plastique, très dangereuse, je suis d'accord, en solvant, en tout ce que vous voulez. Il y a des techniques qui existent, effectivement, pour aller récupérer autrement la houille en souterrain et peut-être l'exploiter. La bonne question à se poser, c'est notre planète a-t-elle encore besoin qu'on aille chercher du charbon?
Par contre, l'idée du gaz, hein, ça refait un peu surface, si on peut dire.
Alors, l'idée du gaz, tout dépend de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de gaz de houille? Est-ce qu'on parle de gaz de schiste? Ce n'est pas la même chose. Est-ce qu'on est dans la question de la captation du grisou qui est présent dans le sous-sol? Et ça, c'est pas quelque chose de récent. Hein. Ce sont des méthodes qui ont été réfléchies et déjà expérimentées depuis des dizaines d'années. Dans le bassin minier, on le fait. Hein. On capte le grisou qu'on réinjecte directement dans les réseaux de gaz. Voilà, c'est un autre sujet. Mais le grisou n'est pas le charbon.
Voilà. Et donc, sur la mine, eh bien, toutes ces questions, j'imagine, sont traitables à partir de vos données, vos archives, vos films, votre littérature.
Exactement.
Donc, on connaît Germinal, hein, mais en littérature, il y aurait quoi d'autre d'intéressant et d'important?
Alors, vous voyez, c'est exactement le point de départ d'un de nos sujets, parce que le Centre historique minier, c'est un musée, ce sont des expositions permanentes, c'est un site, mais c'est également une programmation. Et au cours de ces programmations, on va chercher des sujets qui peuvent intéresser le public et qu'on creuse par grâce notamment à l'aide de notre conseil scientifique et aux ressources que nous avons sur place. Et quand on pose une question à n'importe qui dans la rue, on lui dit le charbon, littérature, le charbon, cinéma, on répond systématiquement Germinal. Et presque systématiquement même Germinal un peu partout dans le monde. Et Germinal n'est qu'une toute petite partie de la littérature minière, n'est qu'une toute petite partie du cinéma minier et cinéma sous toutes ses formes. Nous avons depuis l'année dernière une exposition temporaire qui s'appelle « La mine fait son cinéma » et que nous présentons, alors elle est prolongée hein, jusqu'aux journées du patrimoine de cette année, donc jusqu'au 17 septembre, donc venez la voir, où on s'est interrogé sur quels sont les liens entre mine et cinéma. Et déjà, qu'est-ce qu'on entend par cinéma? Est-ce qu'on ne parle que des fictions? Ou est-ce qu'on va aller chercher aussi les films documentaires? Les films d'entreprise? Je vous ai dit, moi, dans mes archives, j'ai 500 films qui sont des films d'entreprise produits par les houillères ou charbonnages de France pour valoriser l'entreprise. Donc, notre exposition s'intéresse à tous ces types de films et montre l'intérêt que les réalisateurs ont eu pour la question minière, et ce depuis à peine 10 ans, les premières projections des Frères Lumière. Le premier film minier date de 1905,
ah oui.
Au Pays Noir de Ferdinand Zeka. Un film qui va donner à voir la mine pour ceux qui n'ont pas l'opportunité d'y descendre, c'est-à-dire quasiment tout le monde. Mmh. Parce que c'est un sujet qui intrigue, qui émerveille.
Est-ce qu'il était aidé par des producteurs? Est-ce que les houillères de l'époque, enfin les entreprises privées de l'époque, avaient financé un peu le film? Ou bien
Mais
il
pas
a fait
du
ça tout.
Tout
seul?
Vous savez qui a fait ça? Pathé. Tout simplement parce que les sociétés de production, les grandes sociétés françaises, Pathé, Gaumont, comprennent dès 1905, dès 1912, qu'en fait, la mine est un sujet qui va faire vendre du film, parce que c'est un sujet qui intrigue. On a souvent tendance à dire on ne descend pas impunément dans les entrailles de la terre. Il y a des catastrophes, il y a Germinal. C'est à la une de tous les journaux de l'époque. Et donc, c'est un sujet qui intéresse parce que vous avez tous les ingrédients qui peuvent faire un bon film. Un peuple qu'on ne connaît pas, aller dans le sous-sol, un monde qu'on ne connaît pas, des intrigues, des catastrophes, des mouvements sociaux. Donc tous les sujets, tous les ingrédients qui peuvent faire une bonne fiction.
Mmh.
Et ça, les sociétés vont le comprendre extrêmement vite.
Alors, autrefois, au cinéma, il y avait les news, les informations, il y avait des séquences sur l'actualité.
Les actualités.
Et est-ce que ces catastrophes minières étaient présentées parfois? Est-ce qu'on a encore des traces des films de l'époque?
Alors, on a des traces hein, dans les actualités françaises, notamment. 1906, pour l'instant, on a du mal à retrouver le petit bout d'actualité sur la catastrophe, mais on va l'avoir sur des événements. On a des images, par exemple, des mineurs polonais qui, en 1934, après la grève qu'ils ont menée dans la société des mines de Dourges, vont être expulsés de France. Et il y a des actualités qui montrent ça. De la même façon, on va avoir des actualités sur les grands mouvements sociaux qui ont lieu après la Seconde Guerre mondiale, que ce soit 47, que ce soit 48, 63. On est dans le 60e anniversaire de 63. Ce sont des choses que l'on voit. Et on voit aussi autre chose. Dans les actualités, on va voir, par exemple, les visites présidentielles. Charles de Gaulle qui vient au 6 d'Haïcourt visiter les mines modernes en 1959. Mm-hmm. Il y a un reportage fabuleux qui existe avec toute cette emphase que l'on connaît pour les actualités de l'époque, avec ses voix qui racontent ces images presque de cinéma pour raconter l'actualité et ce discours de Gaulle qui vante la mine moderne, qui remercie les mineurs pour le travail effectué pour tout le courage qu'ils ont eu pendant la bataille du Charbon. On est en 1959, à peine 6 mois après, c'est le plan Jeanneney qui annonce la reconversion à venir des mines et la fermeture programmée des mines en France.
Et 10 ans après, mai 68, les mineurs n'étaient pas pour rien aussi dans l'engagement.
N'était pas pour rien, et de toute manière, nous célébrons en ce moment le 60e anniversaire des grèves de 63, qui ont été la dernière grande grève dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, et une grève d'union dans toute la France, tous les syndicats, tous les mineurs, toute la corporation minière, qui en fait est une grève un peu les prémices de 68 déjà. Déjà à l'époque.
Voilà, donc on a un petit aperçu à la fois historique, pas géologique trop, mais un peu quand même. Et puis du contexte actuel, on peut peut-être en dire 2 mots de votre lieu. En quoi, bien sûr, c'est un centre de ressources, mais il y a des moments, des temps forts dans l'année, dynamiques, avec peut-être des publics particuliers que vous visez à ce moment-là.
Oh, écoutez, effectivement, nous avons une programmation pour l'ensemble des publics qui viennent chez nous. Environ 160 000 visiteurs l'an dernier qui sont venus visiter le centre historique minier, avec toute une programmation événementielle. Bien sûr, je vais vous citer la nuit des musées avec un accès libre au site entre 19h et minuit. Et cette année, la programmation sera consacrée au cinéma. Au 7e art, sur l'ensemble des installations. Nous avons aussi des temps très particuliers destinés à certains publics. Par exemple, les 3 et 4 avril prochains, nous organisons un colloque international plein feu sur la mine avec 17 universitaires français et internationaux, chiliens, portugais, italiens, belges, allemands, aux côtés des Français, anglais, qui vont essayer ensemble de réfléchir à ce qui existe en matière de recherche sur les liens entre mines, cinéma et littérature, pour se poser la question comment dans les autres bassins miniers dans le monde on s'est aussi approprié la mine dans ces différents sujets que sont la littérature et le cinéma.
Alors, le bassin minier, je suis un petit peu l'actualité, j'ai fait quelques reportages, est très très structuré avec des opérateurs, on va dire des acteurs du territoire, qui se concertent beaucoup, qui travaillent en phase pour proposer, alors là on parlait des ressources, mais aussi aux visiteurs, hein, pourquoi pas même éloignés ou étrangers, un ensemble de visites possibles qui témoignent bien sûr de toute cette activité et du devenir de cette région.
Tout à fait. Effectivement, dans le bassin minier, alors, outre les 5 grands sites de mémoire inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO avec l'ensemble du territoire, de Oeller-Sarrambert à Bruay-la-Buissière, vous avez cité tout à l'heure Culture Commune au 11-19, on peut citer aussi le 9-9 bis d'Oigny, mais il y a également un certain nombre de structures culturelles partout dans le bassin minier. De structures qui sont engagées aussi sur les questions environnementales. La chaîne des Théries qui s'intéresse à notre patrimoine paysager, etc. Et chacun d'entre nous, on travaille ensemble et on essaye justement d'avoir des liens. L'an dernier, par exemple, on a créé ensemble un festival, les Pépites Noires. Festival minier pour lequel on a proposé toute une série de films. Et ce qui était intéressant, c'est que d'autres acteurs, je pense par exemple à Douézi Aglo avec Arkeos, qui a proposé également des séances de cinéma. Et c'était la même chose du côté de la Porte du Hainaut ou du Bruézi ou de l'agglomération de Lanciévin. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est cette volonté de partager notre patrimoine, qui n'est pas qu'un patrimoine historique, mais aussi un patrimoine dans lequel nous vivons parce que c'est ça, un patrimoine UNESCO, paysage culturel évolutif, avec des gens qui ont des cultures, qui ont des activités, et on essaye tous ensemble, voilà, de le faire vivre et de le partager à ceux qui habitent sur notre territoire et à ceux qui viennent. Parce que c'est ça qui est important aussi, c'est qu'on vienne sur notre territoire et qu'on découvre nos richesses.
Voilà, découvrir et puis profiter aussi des espaces qui sont beaucoup renouvelés, enfin réadaptés pour en faire des lieux attractifs. Je pense à tout ce qui a été végétation remise sur les sites, les friches industrielles, etc. Il y a le trail du Pays Noir ou quelque chose comme
exactement.
Ça aussi.
Exactement, et puis monter sur les terris... ceux qui sont accessibles, hein. Sinon je vais me faire disputer.
Allez,
par mes...
Je connais le 11-19, on peut aller.
Exactement,
sinon...
le petit 110 à Ouani est magnifique, parce que c'est un petit terriconique qui n'est pas trop difficile à monter et sur lequel vous avez une vue extraordinaire du bassin minier.
Bon, ben voilà des propositions tout à fait intéressantes. On va rappeler les événements, les lieux, les dates.
3-4 avril, au Centre historique minier, un colloque international sur inscription. Et puis le centre est ouvert tous les jours de l'année, 7/7, à l'exception du 1er mai, avec actuellement deux expositions temporaires. La mine fait son cinéma et tous en grève sur les grèves de 63.
Bien, merci Virginie Malo-Lepsi. Je rappelle que vous êtes directrice des archives du Centre historique minier de Léouard et puis membre de l'équipe scientifique. D'ailleurs, on entend le professionnalisme. Quand on a des questions de fond, on a des réponses. C'est toujours intéressant d'avoir des spécialistes plutôt que des communicants. Merci de
votre présence. Je ne suis pas spécialiste de tout, mais obligée de m'intéresser à tout. Et c'est vrai que la mine est un sujet qui passionne.
Alors... puisque nous avons également la chance d'accueillir Jacques Lemierre, qui est sociologue et qui a une ouverture aussi depuis longtemps des centres de préoccupation qui touchent parfois la mine. On va en parler aujourd'hui, Jacques. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on peut peut-être dire à quel moment Jacques Lemierre s'est intéressé à la mine. Est-ce que c'est déjà tout jeune, tout petit ?
Non, parce que, enfin, sauf la connaissance indirecte, puisque moi je suis apparu en ce bas monde dans un bocage d'élevage laitier de Normandie, donc j'étais très très loin du monde minier. Mais bon, sociologue, enseignant chercheur ici à l'université de Lille, très vite on rencontre cette réalité. En vérité, je crois que ma première visite de citoyen qui s'est installé avec sa petite famille à Lille pour rejoindre son poste universitaire a été pour votre centre historique minier. C'est-à-dire, je me sentais comme une espèce de devoir de mettre à jour la connaissance de ce que c'était qu'un lieu minier. Après, ça a été l'engagement dans mon laboratoire, le Clercé, ici, là, sur cette cité scientifique, d'un grand colloque international pour lequel on a constitué un groupe de travail qui s'est appelé Anthropologie du bassin minier et qui s'est tenu en mai 2000 et qui s'est tenu à Béthune. Ça a duré 3 jours. Et moi j'étais déjà engagé dans mon enseignement et dans la recherche ici au même laboratoire, à la même faculté de sciences économiques et sociales, dans le rapprochement entre l'anthropologie et le cinéma. Et donc j'ai trouvé qu'il était pertinent de proposer à mes collègues que on ne tienne pas simplement les 3 jours de colloque, mais qu'on constitue un programme de cinéma que j'ai appelé « Mines et mineurs d'ici et d'ailleurs ». Il y avait le côté international du colloque et je voulais projeter aussi dans la programmation de films une dimension internationale. Alors, je me suis retrouvé donc mandaté pour mener ça à bien et j'ai souhaité y associer des salles de cinéma du bassin minier. J'avais mes propres activités pour mes étudiants ici qui consistaient à organiser des journées de cinéma et anthropologie. Donc j'étais certain que je pouvais développer au cinéma Le Méliès, à côté du campus, une journée entière là-dessus. Mais ça me semblait pas suffisant. J'ai pensé d'une part qu'il fallait qu'on contacte des salles du bassin minier. Donc on a travaillé avec l'arc-en-ciel de Liévin, les étoiles de Bruy-la-Buissière, j'ai ressorti le programme de mes archives. On est le Familia d'Avion, oui. et puis aussi le cinéma de Auchel.
Donc beaucoup de ces lieux existent encore, hein, faut oui, le souligner, il y a une vraie permanence,
absolument,
constance.
Hein. Absolument, et donc, comme le colloque était à Béthune, on a bien évidemment situé à l'intérieur même des journées du colloque une soirée, en plus d'un autre film que les étoiles de Bruy-la-Buissière avaient pris, pour que les participants au colloque puissent avoir une soirée de cinéma et mine. Voilà. Et donc, ce fut 18 films, mm-hmm. des films longs, des films courts, des fictions, des documentaires, des films classiques, des films contemporains. J'ai relevé pour l'occasion quelques titres. La tragédie de la mine de Babst, 1931. Le point du jour de Louis d'Aquin, 1948. La trilogie silésienne de Casimir Mickiewicz, qui bien évidemment 70, 72, 80 a intéressé les Polonais
du
bassin minier. Donc ça a été les films qui ont été choisis à Avion. Joris Evans, Misère au borinage, Vittorio De Sica sur Ferrara.
Un des premiers documentaires.
1933.
Ah, magnifique.
Et puis Paul Meyer, 1963, déjà s'envole la fleur nègre. Donc ça, c'est les grandes figures classiques. Et puis la fiction jusqu'à Les Virtuoses de Marc Herman, 1996. Et puis des documentaires. Plus contemporain. Mémoire de la mine de Jacques Renard, 1981, quatre films centrés sur...
Exactement, avec une utilisation des archives des Houillères et une aide des Houillères à l'époque pour qu'ils puissent réaliser ce magnifique documentaire pour la télévision.
C'était absolument, absolument pour la télévision. Et la vie de Denis Gerbrand, dont une partie est tournée ici dans notre région, Nord-Pas-de-Calais. Un film qui s'appelle Dynamite de l'Italien Daniele Segre sur une mine de Sardaigne, un mouvement social dans lequel, pour se faire entendre, les mineurs déposent de la dynamite au fond de la mine. Pascal Apsi avait fait un film tout à fait passionnant, un film vraiment d'anthropologie dans une mine de Bolivie sur l'interdit de l'entrée de la femme dans la mine. Ça s'appelle La mine, la femme et le diable. Un film documentaire du Burkinabé Idrissa Ouedraogo, 1992, sur des mines, alors pas du tout structurées comme les nôtres au Burkina. Et Le Nord pour mémoire, avant de le perdre, qui à mon avis utilise des archives qui doivent être chez vous également.
Des films des Houillères, effectivement.
Isabelle Ingold et Viviane Perel-Mutter. Voilà. Je me souviens très bien, par exemple, de manœuvres de chars. Ouais. À l'intérieur de la ville de Béthune, au moment des grèves de 1963, des images, voilà. Alors donc, c'était, voilà, je signale, mais c'était 18 films, 10 lieux miniers et 8 pays différents.
C'est génial.
Pologne, la Silésie, Italie, Sardaigne, Sicile, Burkina Faso, Grande-Bretagne, Bolivie, Belgique, France et en France, Lorraine, puisque le film de Pabst, c'est la Lorraine, et Nord-Pas-de-Calais.
C'est la Lorraine, ouais. Mais savez-vous qu'en fait, une partie des scènes ont été tournées dans notre bassin minier,
voilà.
Et notamment les scènes de foule et de vie quotidienne ont été tournées du côté de Neuilly-les-Mines. Et on a des images extraordinaires. C'est un des chefs-d'œuvre des films miniers, etc. Moi, je trouve génial le travail que vous avez fait à ce moment-là. Et alors, je vais juste dire, là, c'est l'archiviste qui parle. Anthropologie du bassin minier, c'est toute une série de travaux qui ont été publiés et qui ont été menés dans les années 2000, qui sont toujours des références pour nos chercheurs qui viennent, qu'on a bien évidemment dans la salle de lecture et sur lesquelles, alors moi toute jeune archiviste arrivant au musée, je n'ai pas eu le temps Je venais d'arriver quand vous avez lancé ça, mais c'est vrai que moi, ça a été véritablement des sources de compréhension du bassin minier et des personnes qui vivent ce qu'on n'a pas forcément dans les archives. Et c'est ça qui est important dans votre travail.
Mais merci. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a de la vie dans ces archives? Elles se projettent aussi dans l'avenir en donnant des pistes de réflexion, peut-être des solutions ou pas?
Oui, tout à fait. Les archives, ça permet non seulement de regarder le passé, mais aussi de s'interroger sur l'avenir. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et juste un petit clin d'œil, les fictions de la mine, vous savez qu'il y en a toujours qui sont produites. Nous, dans l'exposition, on en montre une qui date de 2019. Un film qui s'appelle Mine 9. Et dans notre bassin minier actuellement, il y a une fiction de la mine. Alors, le genre film d'horreur, mais c'est quand même un film minier, puisqu'il se passe dans une mine, qui va sortir très prochainement.
On connaît le nom, le titre?
Oui, il est passé dans les journaux, je ne l'ai plus dans la tête, mais oui, vous avez tous dû lire l'info dans les journaux, mais c'est pour bientôt.
Bon. Jacques Lemierre, je profite donc de parler, j'allais dire, une fois de plus, d'un cycle Comoli.
Oui. Bon, alors donc là, on le fil, sont mes activités. C'est pas le la thématique. Donc le cycle Jean-Louis Comoli. Jean-Louis Comoli est un théoricien, écrivain de cinéma et cinéaste, 50 films à son actif, qui est décédé au mois de mai de l'année passée. Et le nouveau Ciné-Club avait donc décidé de lui consacrer, pour l'année 2022-2023, une année entière d'hommage. Au rythme de une séance par mois.
Ce qui se passe au Méliès.
Au Méliès, ici. Et donc, nous en sommes arrivés à la 7e séance de ce cycle qui va se tenir demain. Actuellement, nous avons un invité belge et nous sommes en train d'examiner s'il peut attraper un train des suppressions de trains liées au mouvement social en cours. Il s'agit de Claudio Pacienza, qui était un ami proche de Jean-Louis Comoli, avec qui il a animé un séminaire commun à la grande école de cinéma et d'audiovisuel de Genève. Alors, Claudio Pacienza a choisi le film qu'il va commenter s'il parvient de Bruxelles jusqu'à Lille. Le film est un film de 1981 qui a été tourné par Jean-Louis Comoli dans une situation de balmusette. Et donc il s'agit de restituer ce qu'est le sens pour les gens de ce bal musette, d'être ensemble, de danser ensemble. Donc le film s'appelle On ne va pas se quitter comme ça. Et donc ce sera notre premier élément de programme. Et le deuxième élément de programme, je suis un peu désolé, je vais être obligé de parler de moi-même parce que novembre 2021, c'est-à-dire 8 ou 9 mois avant la mort de Jean-Louis Comoli, j'avais invité Jean-Louis Comoli à Cité Philo pour parler ensemble de son livre « Une certaine tendance du cinéma documentaire » paru aux éditions Verdier. Et quand j'ai vu au mois d'octobre que l'état de santé de Jean-Louis Comoli, qui luttait contre un cancer terrible, ne lui permettrait pas de faire le déplacement à Lille, on a décidé avec Ginette Lavigne, sa monteuse, co-réalisatrice, d'inverser les choses. Je suis monté à Paris et nous avons fait une conversation d'1h30 dans son appartement sur le livre, la conversation qui aurait eu lieu à Cité Philo, mais que nous avons donc filmé et dont un montage a été réalisé de 57 minutes. Et j'avais demandé exceptionnellement à mes amis de Cité Philo que nous n'annoncions pas l'absence de Jean-Louis Comoli à cette séance. L'idée était la suivante, la conversation filmée va le rendre présent. Et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire les gens sont venus, s'attendaient à voir Jean-Luc Omolli. J'ai expliqué pourquoi il n'était pas là, j'ai expliqué qu'on avait anticipé les conséquences de son absence. Et donc il y a cette conversation filmée qu'on a inclus dans le cycle. C'est la dernière conversation construite de Jean-Luc Omolli avant sa disparition. Ça, c'est pour notre séance de jeudi, donc la séance du mois de mars. Et puis, le 6 avril, avant les vacances dites de Pâques ou de printemps, on a une séance qui est consacrée à un film réalisé par Jean-Luc Omolli autour d'un personnage... Enfin, d'une personne très importante dans le mouvement anarchiste de la guerre civile espagnole, qui s'appelle Buenaventura Durruti. C'était un ouvrier qui est mort en 1936 dans les combats de Madrid. Et donc... Comoli s'intéresse à la figure de Durruti, se pose la question de savoir comment il va la mettre en scène cinématographiquement. Il a l'idée de prendre langue avec une compagnie théâtrale de Barcelone. Et ils vont fictionner que la compagnie théâtrale de Barcelone est en train de monter une pièce sur Durruti. En fait, ils n'ont jamais monté la pièce pour Durruti autrement que pour le film. Voilà. Et là, je crois que je peux l'annoncer, parce que enfin, c'est quelque chose que j'ai discuté avec eux ce matin. Vous aviez, René, dans Radio Campus, reçu Ginette Lavigne et Gérald Collat.
Absolument.
Pour le lancement du cycle Comoli à la fin du mois de septembre. Et ils vont, alors qu'ils ne sont pas annoncés dans le programme, ils vont faire le déplacement à Lille. Mm-hmm. Et ils seront avec nous la soirée du jeudi 6 avril, si tout se passe bien.
Alors, on a un petit peu parlé de Cité Philo, évoqué Cité Philo. On peut peut-être reparler de samedi, l'événement qui a eu lieu au Théâtre du Nord.
Oui, samedi dernier, Cité Philo recevait le grand philosophe africain Souleymane Bachir Diagne. Bon, ça c'est une petite idée, elle sera plus secrète si je la dis à Radio Campus, parce que les vastes masses en seront informées. Je nourris le rêve, donc, qui n'est plus secret, que au moins chaque année à Cité Philo, il y ait une grande personnalité de la pensée africaine, qu'elle soit Afrique noire ou qu'elle soit Afrique du Maghreb ou du Mashrek. Et donc, après avoir invité... en 2020, Felwine Sarr, qui n'a pas pu venir à cause de la suspension du caractère physique, à cause du confinement de la manifestation Cité Philo. Après que Felwine Sarr soit venu l'année suivante, j'avais lancé aux ateliers de la pensée de Dakar au printemps dernier une invitation à Souleymane Bachir Diagne. Il est professeur à l'université Columbia de New York, qu'il ne pouvait pas quitter au mois de novembre. Et donc, exceptionnellement, on a disposé cette rencontre en mars, dans un partenariat entre Cité Philo, l'Institut Goethe de Lille, dont j'ai découvert à son arrivée que la jeune nouvelle directrice était la traductrice en allemand d'un livre de Souleymane Bachir Diagne, et puis le Théâtre du Nord. C'était une très très belle après-midi. J'ai le plaisir d'annoncer que nous avons rempli la salle qui nous était affectée, la petite salle du Théâtre du Nord. Cérimania, qui avait loué le hall et la grande salle pour 8 jours, nous a laissé le confort d'un sous-sol un petit peu à l'abri du bruit et de la fureur médiatique de Cérimania. Nous avons donc transformé la petite salle du Théâtre du Nord en cave de Platon, si je puis dire. Et voilà, c'était une très belle après-midi avec la générosité de Souleymane Bachir Diagne, la puissance de sa pensée érudite aussi.
Très bien.
C'est un enfant de Saint-Louis qui est né dans un dans une famille qui comptait des aïeuls du soufisme lettré, un père receveur des postes qui lisait de la philosophie occidentale et qui était nourri lui-même de commentaires soufis du Coran. Et voilà ce jeune homme devenu normalien de l'école normale supérieure. Et puis, aujourd'hui, professeur à l'Université Columbia de New York, après avoir été professeur à l'Université de Chicago. Et il dirige à New York, dans cette Université Columbia, le département d'études africaines.
Un sacré parcours, hein,
c'est impressionnant. Oui, et alors j'invite vraiment tous les auditeurs à lire le livre que nous avions choisi comme premier support de cette conversation qu'on a eue avec lui, qui s'appelle « Le fagot de ma mémoire », dans lequel il restitue ce parcours de vie et ce parcours intellectuel. Non, mais c'est une histoire incroyable. C'est quand même un... solidarité des normaliens de l'école normale supérieure. Quand il est reçu, après avoir été envoyé à Louis-le-Grand, par les professeurs de son lycée de Dakar, quand il est, après 2 années à Louis-le-Grand, il est reçu à l'école normale supérieure, le directeur de l'école normale supérieure de Paris, qui connaît Senghor pour avoir été proche de lui à l'école normale supérieure, quand Senghor était lui-même normalien, on prévient Senghor, qui demande à la Radio Nationale de faire un communiqué disant que le Sénégal est à l'honneur parce qu'un jeune Sénégalais vient d'être reçu normalien. Voilà, c'est des choses.
Alors, c'était une aventure à l'époque. Est-ce que maintenant, c'est ce genre d'aventure qui, entre guillemets, se banaliserait ou c'est encore compliqué de reconnaître des talents ?
Je pense, je vais oublier son nom, mais en même temps, je sais que... On a vu il y a quelque temps, il y a 2 ans, une jeune lycéenne extrêmement brillante au Sénégal venir également à Louis-le-Grand dans un parcours un petit peu semblable. On a d'ailleurs eu une inquiétude pour elle parce que en fait elle a un peu craqué. Et donc elle a organisé sa disparition. Provisoire, si je puis dire. Elle a disparu. Et puis, elle est réapparue ensuite. C'est une brillante jeune fille qui brille dans ses études, mais aussi veut écrire des romans. Il y a des figures de jeunes Sénégalais qui sont encore, oui, capables de faire ce genre de parcours. Je vais en citer un autre. Alors, ça, c'est une très belle histoire aussi. C'est un jeune Sénégalais qui va venir faire des études au lycée public de Compiègne avec une famille d'accueil française. Ça suppose une logistique aussi, ça. Hein. Et qui est devenu le premier prix Goncourt dans les écrivains francophones d'origine sénégalaise. Il s'appelle Mohamed Bungar Sarr et il a donc obtenu ce prix Goncourt non pas l'année passée mais l'année précédente. Et c'est un écrivain brillantissime. Voilà. Et donc il y a quelque chose qui se continue.
En même temps qu'il se continue, mais il y a une vraie émergence et une revendication des Africains à exister et à être présents sur toutes les scènes.
Oui, alors je vais mettre un bémol quand même, parce que pour que ça se continue, il faut aussi que l'État français continue à attribuer des visas à ceux qui ont envie de venir faire des études en France. Et la détérioration de la situation de l'attribution de visa est colossale. Et elle ne touche même pas seulement les jeunes. Participant à des journées de sociologie francophone à Tunis et à Sfax en octobre dernier, j'ai appris que des universitaires confirmés, des professeurs d'université, y compris de gens de mon âge ou pas loin de mon âge, invités à venir en France pour participer à des jurys de soutenance de thèse, se faisaient refuser le visa.
Oh, ça va aller, oui.
Et je connais beaucoup d'intellectuels tunisiens, du coup, qui m'ont dit ne plus même... vouloir venir en France parce qu'ils ne veulent pas prendre le risque de l'humiliation de se faire refuser un visa dans les services de l'ambassade de France à Tunis.
On se rend compte que bon, la politique, et même internationale, hein, intervient beaucoup dans les parcours des gens, où qu'ils soient, et que la situation est loin d'être stable.
Et j'ajouterais, puisqu'on parlait de Souleymane Bachir Niagne et de son parcours, qu'il n'est pas hasardeux qu'il soit aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, vous avez une demande très très forte dans les universités de bons connaisseurs, de bons spécialistes des études africaines, que ce soit au plan anthropologique ou au plan philosophique. Et les universités américaines, qui disposent par ailleurs de moyens à offrir en termes de confort de recherche et d'enseignement pour des intellectuels africains, les attire, bien évidemment. Felou Nsar, dont j'ai cité le nom tout à l'heure, lui, est à l'université de Duke, en Caroline du Nord, qui est d'une certaine façon l'équivalent de Harvard, au nord des États-Unis, c'est au sud, c'est l'équivalent de Harvard. Voilà, donc Chicago, Duke, Harvard, Columbia à New York, voilà des. Et c'est même un peu. Je lisais l'autre jour un livre qui s'appelle Macron et l'Afrique, et même Macron lui-même s'en plaint. Du fait que ces intellectuels brillantissimes du Sénégal ou de l'Afrique francophone filent vers les États-Unis. Mais on ne dirait pas qu'ils s'en préoccupent tant que ça.
Mais peut-être qu'il a d'autres formes de contraintes qu'il ne maîtrise pas forcément lui-même.
Non, il ne maîtrise pas tout, à l'évidence.
Allez, merci à vous deux, hein, d'être venus nous passionner avec vos propositions et vos réflexions. On se retrouve quand vous voulez. Très bonne soirée.
Merci.
Merci.